Le sens de l'humus.
France Inter. Le 6-9 du week-end. Éric Delvaux.
Et ça, c'est votre affaire, l'humus. Arnaud Daguin, bonjour Arnaud.
Bonjour, bonjour Patricia.
Bonjour Arnaud.
Question ce matin sur la permaculture, un mot que l'on entend de plus en plus, dont vous estimez d'ailleurs qu'on l'utilise un peu à toutes les sauces, à tort et peut-être aussi à travers. La permaculture aurait donc le dos large.
Le dos large, c'est le moins qu'on puisse dire, mon cher Eric. Parler de permaculture de nos jours revient souvent à accumuler des fantasmes, voire des utopies. Tant ce mot a évolué, ou son sens en tout cas, ces dernières années. Et c'est très bien, nous avons besoin d'utopie et de fantasmes pour imaginer le monde de demain. Mais revenons au mot lui-même, permaculture. Il semble nous dire quelque chose de simple au fond, quelque chose comme culture permanente par exemple. Pourquoi aurions-nous besoin de spécifier la permanence quand nous parlons de culture ? Eh bien peut-être parce que depuis que nous cultivons, c'est-à-dire depuis les débuts du néolithique, de par nos techniques de culture, nos sols agricoles sont nus et donc incultes au sens propre du terme pendant une bonne partie de l'année. En France, par exemple, la grande majorité de nos sols agricoles restent nus entre deux cultures et ce, en moyenne, 130 jours par an, un tiers de l'année. Un tiers de l'année pendant lequel le soleil stérilise au lieu de produire de la photosynthèse. Un tiers de l'année pendant lequel les averses et les orages lessivent et érodent les sols vulnérables car exempts de plantes et donc de racines pour les aider à rester structurés. La permaculture, c'est donc d'abord le fait de ne jamais laisser le sol sans plantes poussantes dessus. C'est simple, certes, mais pas si évident que ça quand on connaît un peu l'agriculture. Le domaine de prédilection de la permaculture, c'est bien sûr le maraîchage, et aujourd'hui, tout le monde, ou presque, connaît la ferme du Bec-et-Loin qui en est l'étendard le plus célèbre. C'est d'une autre ferme dont nous allons parler ici, une ferme en permaculture et agroforesterie. Elle se situe aussi en Normandie et s'appelle la ferme de la Mare des Ruffauds. Elle est animée et tenue par Louise Desfontaines et Édouard Stalin. J'ai bien aimé la façon dont Édouard raconte sa production, ça a l'air tellement simple.
Nous avons planté des arbres, nous cultivons en dessous des arbres. Les arbres sont des arbres fruitiers, des arbres à fruits à pépins, des pommes, des poires. Et en dessous de tout ça, nous avons différentes sortes de légumes et de petits fruits. En gros, les plantes attirent les animaux, ils les attirent au niveau de leurs fleurs, au niveau de leurs fruits, au niveau de leurs feuilles, au niveau de leur écorce, au niveau du tronc. Et en fait, ça vous apporte plein d'externalités positives. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces animaux que vous allez attirer vont jouer le rôle de prédateurs pour pouvoir prédater tous les petits prédateurs qui prédatent vos légumes.
Prédatons.
Oui, c'est bien gentil, tout ce petit monde qui prédate entre soi. Mais comme aurait dit ma grand-tante Hippolyte, c'est pour nous qu'on fait pousser les carottes, c'est pas pour les garennes. Alors, comment fait-on dans ce vivant foisonnant pour protéger ses productions ? Est-ce qu'on demande à la nature de se plier à nos lois ?
C'est pas à la nature de s'adapter à l'homme, mais c'est à l'homme de s'adapter à la nature. Donc, c'est-à-dire que quand on va optimiser tout ça dans un écosystème, donc on va vraiment avoir de plus en plus de fruits, de petits fruits et de légumes sur une très petite surface ou même sur des grandes surfaces. Donc voilà, ça va optimiser au niveau de l'économie. On a besoin de moins de surface pour produire plus. Eh bien, ils vont forcément aussi un peu prédater. Parce qu'ils vont prédater un peu les framboises, ils vont un peu prédater aussi quelques tomates, parce que ils sont partisans du moindre effort, comme nous, ils vont à l'essentiel. Et il va falloir un peu se prémunir, donc il va falloir aussi peut-être mettre des filets contre les insectes, des filets aussi contre les oiseaux, pour pouvoir limiter quand même un petit peu leur prédation, afin qu'ils nous laissent quelques fruits et quelques légumes que l'on puisse apporter à nos clients en vente directe, afin qu'en fait tout le monde puisse se régaler. Aussi bien les petits animaux, les micros, les macros, et aussi nous qui sommes des très gros animaux, les êtres humains. Comme le gîte et le couvert. Voilà. Si tu veux attirer des amis chez toi, s'ils sont bien accueillis, ils ont de quoi dormir, ils ont de quoi manger, et souvent ils reviendront. Ça fonctionne comme ça, tout simplement.
Et oui, le gîte et le couvert, finalement, que ce soit dans nos rapports humains ou dans nos relations à la nature, on retombe toujours là-dessus. Héberger et nourrir le plus grand nombre, tendre vers un équilibre des parties, équilibre dans lequel aucun des participants n'a le loisir ni la place de prendre le pouvoir sur tous les autres. Un équilibre qui nous permet de nous passer de tous les mots en cides, fongicides, insecticides, herbicides, bref, l'équilibre et le foisonnement de la vie pour produire plus et mieux. Il est sans doute là notre sens de l'humus, et à nous de savoir le cultiver.
Avec le moins de prédation possible, donc si j'ai bien compris.
Voilà, un prédaton.
Merci Arnaud Daguin, et à samedi prochain.